I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le plus grand congrès de cancérologie au monde, l'ASCO, s'est ouvert ce 4 juin aux États-Unis, à Chicago. À cette occasion, Code Source vous propose aujourd'hui le témoignage de Lucie, une avocate de 32 ans. Il y a 5 ans, elle a cru être enceinte avant de découvrir qu'elle souffrait d'un cancer gynécologique rare dont elle a pu guérir grâce à une nouvelle thérapie. Lucie raconte son histoire au micro de Claudia Prolongeau.
Lucie m'accueille chez elle, dans une jolie maison près de Rambouillet. Elle a 32 ans, un immense sourire et des cheveux mi-longs et raides, attachés avec une pince derrière sa tête et qui lui tombe sur les épaules.
Alors j'ai grandi pas très loin d'ici, à proximité de Rambouillet. Je suis née à Rambouillet et j'ai vécu au Perray-en-Yvelines. J'ai fait mon lycée à Rambouillet, donc c'est dans le coin et toute ma famille est dans le coin.
Depuis 6 ans, Lucie a son cabinet d'avocat. Ce qui n'est pas du tout ce qu'elle avait imaginé.
Je voulais tout sauf être avocat. Et finalement, au fur et à mesure des études, c'est vers ça que je me suis orientée. La relation client, la relation avec les juridictions. Chaque client a sa situation. Et même, par exemple, un divorce pour une personne ne sera absolument pas le même pour une autre personne. Alors que pour autant, la procédure, elle sera la même.
En 2009, alors qu'elle a 20 ans, elle rencontre celui qui deviendra son mari. Quelques années plus tard.
On s'est rencontrés une première fois avant, mais on ne s'est pas vraiment connus. Et puis après, en fait, on s'est rencontrés vraiment quand moi j'avais 20 ans. Et on a fait des cours de tennis ensemble. Et alors au début, il a beaucoup galéré. Et puis finalement, je me suis laissée séduire. Et puis voilà, on ne s'est pas quitté. C'était en 2009. On a emménagé ensemble en 2012. Et on s'est mariés en 2016.
Et vous aviez toujours voulu avoir des enfants ?
Pas forcément de suite, parce que les études d'avocat sont quand même assez longues, donc je voulais avoir fini les études avant de faire des enfants. Et puis, on voulait aussi se marier, avoir une maison. Donc en fait, l'année de notre mariage, on a construit une maison. Et puis après, on s'est dit, lançons-nous.
Lucie arrête sa pilule peu de temps après son mariage. Au mois d'octobre, elle souffre d'une gastro et va chez son généraliste, qui lui prescrit au passage un test de grossesse. Les résultats de la prise de sang sont formels. Le taux de bêta-HCG, l'hormone produite pendant une grossesse, est très élevé. Ça voudrait dire qu'elle est enceinte d'environ un mois. Elle et son mari, ravis, gardent la nouvelle pour eux et partent en voyage de noces comme convenu, le 12 novembre, en Martinique.
Et là, grosse catastrophe, j'étais malade, je vomissais tout le temps, j'avais même des pertes qui n'étaient pas expliquées, enfin voilà, donc ça allait pas. Je suis rentrée, j'avais un rendez-vous chez le médecin, chez la gynécologue normalement le mercredi, Et en fait, dès le lundi, ça allait pas du tout. J'avais mal aux reins, très très mal aux reins. Donc je vais aux urgences. Et là, aux urgences, ils me font faire une échographie par un gynécologue et qui, du coup, me dit rien. Je lui demande s'il voit le bébé. Il me dit « Ah non, mais moi, je regarde pas ça, je regarde vos reins. » Ils me refont faire une prise de sang, etc. Et finalement, vers, je sais plus, 17h, je vais au service gynéco. Et là, je me retrouve devant le gynécologue, allongée, et mon mari à côté. Je lui dis « Tu vois le bébé ?» Et il me dit « Alors là, moi, je sais pas lire une échographie, donc vraiment, je sais pas. » Et le gynécologue nous regarde et nous dit « Ah bon, mais vous êtes pas au courant. C'est pas un bébé, c'est une tumeur. » Alors là, nous, moment de flottement, on se regarde en se disant « Mais c'est quoi ce truc? Où est-ce qu'on est ?» Et donc il dit « Oh là là, j'aime pas quand c'est à moi d'annoncer ces choses, ils auraient pu vous le dire. »
Sonnée et peu enclin à plaindre le médecin qui a dû leur faire cette annonce, Lucie et son mari apprennent qu'ils sont face à une grossesse molaire. Pour résumer, c'est une anomalie qui survient au moment de la fécondation. Au lieu qu'un embryon s'implante dans l'utérus, une tumeur est créée. Le corps ne faisant pas la différence entre les deux, il a tous les symptômes d'une grossesse. Malgré le choc, Lucie et son mari sont vite rassurés par le médecin.
Il nous dit « Bon, alors, c'est de la faute ni du papa ni de la maman, c'est un problème génétique, ça c'est mal fait. » Donc là, il nous dit « Bon, va falloir faire un curetage, va falloir évacuer tout ça. » Et là, il y a une infirmière qui arrive dans le bureau et qui lui dit « Docteur, faut venir de toute urgence, faut faire une césarienne à une dame. » Donc, il s'en va. Nous, qu'est-ce qu'on fait hein? On regarde le téléphone, qu'est-ce qu'une grossesse molaire? Comment ça se passe? Et donc, on tombe sur chimiothérapie, curetage, le problème après pour avoir des enfants éventuellement. Donc, il revient et on l'interroge sur ça. Et là, il nous dit « Ah non, mais la chimiothérapie, ça arrive jamais. » Ok, pas de souci. Il m'opère le mercredi. Et puis, je me suis pas remise tout de suite. Hein. D'ailleurs, normalement, c'était censé être en ambulatoire. Je rentre le matin, je ressors le soir. Mais le gynécologue a préféré me garder une nuit en observation.
Lucie ressort donc fatiguée et avec la consigne de faire une prise de sang toutes les semaines pour vérifier que le bêta-HCG, signe que la tumeur est présente, redescend bien.
Ils ont bien descendu pendant 15 jours et ensuite ils sont remontés. Et à partir de ce moment-là, quand les médecins voient que ça remonte, c'est qu'il reste soit dans l'utérus et que donc il faut faire un nouveau curetage, soit c'est malin et qu'il faut passer à la chimiothérapie. Ça a été mon cas jusqu'au mois d'avril. Au mois d'avril, en fait, ils m'ont dit que j'étais résistante à la chimio et que donc il fallait passer à un autre protocole. Ça arrive dans à peu près une femme sur 10 qui a la chimiothérapie résiste au traitement, donc voilà.
Lucie a deux solutions. Soit il passe à une chimio beaucoup plus agressive, avec une hospitalisation obligatoire et elle perdra ses cheveux, soit elle entre dans un essai clinique. Lucie choisit donc cette deuxième option, qui, au lieu d'attaquer la tumeur directement, comme le fait la chimiothérapie, va apprendre au système immunitaire à la reconnaître et à se défendre contre elle. Elle entame l'essai clinique. L'immunothérapie est délivrée à Lyon, dans un hôpital qu'il organise et où elles seront tous les 15 jours. Au début, tout se passe bien. Son taux de bêta-HCG baisse, signe d'un mieux. Puis la tendance s'inverse.
Au mois de juillet, il y a eu un moment de doute où mon taux ne baissait plus. Et donc l'oncologue à Lyon me dit « Bon, le taux ne baisse plus, je vous fais la cure là, parce que comme ça, ça permet d'éviter que le taux remonte trop. » Et je ne sais pas si ça fait un déclic ou quoi, mais la semaine d'après, descente fulgurante du taux, on reste sur l'immunothérapie jusqu'en octobre où négative, la délivrance.
Vous y attendiez ?
Non. Je pense que je suis rentrée dans une dépression, en fait. J'étais très triste quand mon taux augmentait et je n'arrivais pas à être heureuse quand mon taux descendait. Parce que c'est le taux de bêta-HCG qui détermine de si on a une cure supplémentaire, si on continue, s'il remonte. Et une semaine sur l'autre, ça remonte, ça redescend. Et c'est très, très éprouvant pour les nerfs parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais quand ça va terminer. Donc j'ai eu la dernière dose début octobre 2017. La dernière fois où on fait le Lyon-Paris pour la cure, ouais, ça fait du bien.
Lucie entre ensuite dans une période de surveillance d'un an. pendant laquelle on vérifie que son taux de bêta-HCG ne remonte pas. Pour ne pas fausser les résultats, elle ne doit surtout pas tomber enceinte et prend donc à nouveau une contraception. Comme nous n'avons pas de recul sur cet essai clinique, rien n'assure qu'elle est encore fertile.
C'était au mois d'octobre. J'avais été voir ma gynéco de ville et je lui avais dit « Bon, j'ai arrêté mes pilules en juin, je tombe pas enceinte, j'ai fait des tests d'ovulation, j'ovule pas. » Donc, je suis sûre, ça m'a tout cassé, ça marche plus. Donc, elle m'a dit, moi, je suis sûre que non, mais je vais vous envoyer faire une échographie pour voir si vous avez ovulé. Donc, je vais dans un centre spécialisé, ils me font une échographie, et la dame, elle me dit, bah si, vous avez ovulé, hein, je le vois, vous avez ovulé. Donc, en fait, je pense que c'est parce que j'ai mes cycles qui se sont rallongés. Donc, en fait, je faisais jamais le test d'ovulation à la bonne date. Une fois que j'ai fait le test d'ovulation à la bonne date, je suis tombée enceinte. Et bon, j'ai fait une fausse couche, mais dans un sens, ça m'a rassurée. Parce que je m'en suis beaucoup voulu. J'en ai beaucoup voulu à mon corps d'avoir fait ça, en fait. Se pardonner à soi-même, d'avoir, à 27 ans, eu un cancer, c'est pas évident.
Pour l'aider dans cette démarche, Lucie est accompagnée par une psy, du début de sa chimio à la fin de son traitement. Et puis un jour, elle fait un nouveau test de grossesse. Et il est positif.
Alors j'ai tout de suite contacté Lyon. Enfin, ils m'ont contacté en me disant « Votre taux, il augmente, c'est normal. » Donc oui, c'est normal. « On vous renvoie une ordonnance pour une prise de sang ?» Oui. Donc j'ai fait deux prises de sang d'affilée. Et moi, je les ai rappelés en leur disant « Bon, bah, du coup, le taux est normal. Vous voulez pas me renvoyer quand même que je refasse quand même des prises de sang pour me rassurer ?» Ils m'ont dit « Non, non. Là, pour l'instant, c'est normal. Voilà, il n'y a pas de difficulté. Donc, le taux est normal, on ne vous redonne pas de prise de sang. » Bon, d'accord. Et ensuite, bah, j'avais contacté ma gynécologue qui m'avait dit « Je ne vous donne pas de rendez-vous avant la cinquième semaine parce que sinon, avant, on ne va rien voir. Et si on ne voit rien, vous allez stresser. » Donc, la patience, cinq semaines, c'est long. À se dire, est-ce que c'est quelque chose de normal? Est-ce que je vais encore avoir la grosse catastrophe? Voilà. Donc on arrive à l'échographie. Et j'ai pas regardé l'écran, je regardais mon mari. Parce que je me suis dit, je vais voir dans ses yeux s'il y a quelque chose qui est pas bien. Si... Et donc je le regardais lui et ma gynécologue qui me dit, non mais regardez l'écran. Pour... Cette fois, c'est vrai. C'est vrai, c'est un vrai bébé. Donc voilà, je me suis mise à pleurer.
Enfin, le 2 août 2019, naît Harry.
Pour moi, la grossesse, ça a été toute une période stressante. En fait, tant que je le sentais pas bouger, déjà, à chaque fois que j'allais à une écho, je me disais qu'il était mort, comme ça au moins je me préparais psychologiquement. Donc, une fois qu'il a commencé à bouger, ça a été mieux parce que, je savais qu'il était toujours là et que ça allait bien. Mais tant qu'il était pas sorti, qu'il était pas dans mes bras, je pouvais pas me dire qu'il était bien. Et puis, une fois qu'il est sorti, il était parfait.
Désormais, Lucie veut avoir un deuxième enfant, mais elle appréhende une grossesse et craint d'avoir à nouveau un cancer.
Il y a peu de risques. Bon, on dit quand même que c'est une chance sur 100 de recommencer, donc c'est énorme. Mais bon, après, une fois qu'on voit le petit cœur battre, on n'y pense plus à ces statistiques. Oui, je pense que c'est un syndrome post-traumatique, mais je pense que je me suis fait une grosse carapace. Et mon mari me le dit, hein, que je ne suis plus pareille, je ne montre plus mes sentiments de la même façon. Mais Harry casse la carapace, oui. Je pense petit à petit, lui, il l'a démolie. Et enfin, voilà, je lui fais des attaques de bisous tout le temps. Il me dit « Arrête, maman !» Et puis après, il me dit « Encore !»
Claudia, dans ce sujet, Lucie ne parle jamais de douleurs physiques.
En effet, ça m'a un peu surprise. Je lui ai posé la question à la fin de savoir si elle avait eu de grosses douleurs physiques. Et en fait, elle m'a dit que pas du tout. Il se trouve qu'on lui a diagnostiqué une résistance à la douleur. Pour exemple, quand elle a accouché, elle est allée jusqu'à 7 cm de dilatation sans rien sentir du tout. Donc pendant sa chimiothérapie, elle a eu, elle m'a dit, quelques aftes, elle a eu de l'acné, ce qui était vraiment pas agréable. Elle a eu des nausées et des vomissements, mais elle a pas eu de grosses douleurs physiques.
Et en revanche, elle pense que ça n'est pas du tout lié au traitement et que c'est lié à elle. Ça ne veut pas dire que ça sera pareil pour toutes les personnes qui auront la même chimiothérapie.
Est-ce qu'elle a vécu une grossesse molaire ? C'est rare, j'imagine ?
Oui et non, ça dépend où on se situe. Ça concerne une grossesse sur 1000. Donc c'est pas très très fréquent, mais quand même c'est pas si rare que ça. Et ce que me disait Lucie de toute façon, c'est qu'elle dit finalement les statistiques comptent assez peu une fois qu'on est touché, puisque on se dit juste qu'on n'a pas eu de chance, mais nous quand on l'a, c'est vraiment à 100%.
Tu parles de chance, justement, elle s'est dit qu'elle n'a pas eu de chance de vivre ça ?
Non, elle a pas eu de chance, ça lui est tombé dessus. Il y a eu une période vraiment qui a été très très dure pour elle, elle a fait une grosse dépression et en fait sa psy lui a dit dès le début, il faut que vous acceptiez que c'est injuste, que la vie est injuste et qu'il y a zéro raison pour lesquelles ça vous arrive à vous. Et à partir du moment où elle a accepté ça, que juste c'était comme ça, bon bah elle a perdu beaucoup de légèreté évidemment, mais ça a été plus simple à gérer pour elle derrière.
Est-ce qu'il y a un endroit où les femmes peuvent échanger sur les grossesses molaires ?
Oui, il y a notamment les réseaux sociaux, il y a plusieurs groupes Facebook. Lucie, elle, fait partie d'un de ces groupes. Et dans ces groupes, des femmes échangent sur leur expérience, se donnent des conseils et se donnent aussi beaucoup d'espoir puisqu'il y en a beaucoup qui vont désormais très bien et il y en a qui ont eu des enfants. Donc ça donne de l'espoir aux autres.
Merci Claudia Prolongeau et merci à Florence Méréo pour son aide. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueyo et Clara Hage. Réalisation, Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Podcast Addict par exemple. N'hésitez pas à nous écrire codesource@leparisien.fr et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.